Mais que sait-on vraiment justement aujourd'hui des enfants à l'intelligence précoce, ces enfants surdoués qui suscitent non seulement l'intérêt des parents, mais également celle des scientifiques qui cherchent à comprendre ce que ces enfants ont de si particulier. De très nombreuses études apportent aujourd'hui des réponses sur ces enfants et adolescents précoces. Et pour y voir plus clair au milieu de l'abondante littérature scientifique, et puis pour nuancer également les idées souvent véhiculées sur les petits surdoués, eh bien c'est pour cette raison que nous vous proposons aujourd'hui cette tête au carré avec mes invités Maude Besançon et Nicolas Gauvry. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux et bienvenue. Maude Besançon, vous êtes psychologue et maître de conférences en psychologie différentielle à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Et vous travaillez au sein du laboratoire Chartres qui s'intéresse aux mécanismes cognitifs de l'enfant à la personne âgée. Et vous rencontrez dans le cadre de votre pratique clinique des enfants surdoués toutes les semaines. Nicolas Gauvry, vous êtes chercheur en sciences cognitives et en psychologie au sein du même laboratoire Chartres sur la cognition humaine et artificielle. Et vous êtes l'auteur d'un livre, Les surdoués ordinaires, aux presses universitaires de France. Alors comment on mesure justement exactement l'intelligence des enfants surdoués? Est-ce que le cerveau de ces enfants présente des différences importantes? Et que sait-on vraiment de la personnalité des surdoués? Ce sont les questions que nous allons donc aborder ensemble dans quelques minutes avec les messages et des témoignages des auditeurs qui arrivent déjà nombreux sur le site de l'émission franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'attaque. Et puis dans la dernière partie, bien sûr, nous retrouverons deux nouveaux candidats pour le quiz de la tête au carré. C'est Violaine Ballet qui réalise l'émission. Dossier préparé par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans La Tête au Carré. Vous venez nous parler aujourd'hui d'un robot qui tente de ressembler à un guépard.
Oui, il est actuellement développé par le MIT, l'une des universités américaines les plus à la pointe en matière de nouvelles technologies, et financé par le DARPA, le laboratoire de recherche de l'armée américaine. Cheetah pèse 50 kilos, a une petite tête, un gros corps bourré de fils et de composants électroniques et quatre pattes. Et dans une vidéo mise en ligne en début de semaine, on le voit gambader sur une pelouse du campus. Il ne s'étire pas encore autant qu'un guépard, mais sa prestation est tout de même assez impressionnante. Aiwon Park est l'un des chercheurs qui travaille sur ce robot.
Les guépards sont les animaux à quatre pattes les plus rapides au monde. Et nous, aimerions fabriquer un robot aussi rapide qu'un guépard. Quand nous avons commencé à travailler sur ce robot, on a d'abord regardé les mouvements du félin. Et puis, nous avons appliqué ces principes à notre version métallique du guépard. Actuellement, notre robot peut courir jusqu'à 16 km/h et sauter au-dessus d'un obstacle de 33 cm.
Oui, quand même. Hein. 16 km/h, des bonds de plus de 30 cm, donc c'est déjà pas si mal.
Ouais, les chercheurs estiment qu'il devrait sous peu réussir à lui faire faire des pointes de près de 50 km/h et battre ainsi Usain Bolt, l'homme le plus rapide au monde. Alors pour cela, il travaille sur un algorithme qui permet d'imiter la foulée du guépard, parce qu'il n'y a pas que la mécanique. Hein. Les chercheurs essayent de programmer les pattes du robot, non pas pour qu'elles aillent le plus vite possible, mais pour qu'elles appliquent la force exacte dont elles ont besoin quand elles touchent le sol, pour les pousser donc le plus loin possible.
Comment ce robot est alimenté en énergie? Parce que c'est l'autre problématique.
Ben oui, quand ils le font courir sur un tapis dans un labo, ben y a pas de problème. Hein, le robot, il est directement branché sur le courant électrique. Mais dans la nature, Boston Dynamics, une entreprise de robots rachetée récemment par Google, travaille elle aussi pour le DARPA sur un robot quadrupède. Lui, il va un peu plus vite que celui du MIT, puisqu'il arrive à faire des pointes à 25 km/h dans la nature. En revanche, vous allez l'entendre, il est beaucoup plus bruyant. Non, ceci n'est pas une mobylette.
Il y a une grosse mouche.
Le MIT a lui donc pris l'option moteur électrique. Hein. Sungbae Kim, un professeur agrégé, membre de l'équipe du robot Cheetah, explique pourquoi.
La plupart des robots à pattes fonctionnent grâce à des moteurs à combustion interne et à des transmissions hydrauliques. Mais c'est très bruyant et c'est inefficace. Mais les gens pensent que le seul moyen de faire courir et tenir un robot à pattes, c'est ce moyen-là. Ils pensent que les moteurs électriques ne sont pas assez puissants. Et là, c'est vraiment la première fois que nous montrons qu'un robot alimenté par un moteur électrique peut courir et sauter au-dessus d'un obstacle.
Reste maintenant à savoir à quoi ça sert.
C'est ce que j'allais vous demander, Hélène. Un robot qui court à 50 km/h, ça sert à quoi?
On imagine bien que c'est si l'armée le finance, c'est pas fait pour faire des courses de robots, mais plutôt pour épauler les soldats, alors pour les ravitailler sur les terrains, mais aussi pour forcément attaquer l'ennemi.
Voilà, Cheetah, donc il y a une vidéo, on peut voir donc ce robot courir, elle est en lien sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup Hélène Chevalier. Du guépard, nous allons passer au zèbre, car le zèbre, c'est l'autre nom que l'on donne parfois aux enfants surdoués, et c'est le thème cet après-midi de notre dossier avec vos messages franceinter.fr et le hashtag l'attaque pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. On commence avec The Kinks. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Avec donc un dossier consacré aux enfants surdoués cet après-midi pour tenter de faire le tri entre l'abondante littérature scientifique et les nombreuses idées reçues qui circulent au sujet de ces enfants à la précocité étonnante. Maud Besançon, donc vous êtes avec nous, psychologue et maître de conférence, et Nicolas Gauvry, chercheur en sciences cognitives. Et vous travaillez au sein du même laboratoire Chart, ce qui veut dire cognition humaine et artificielle. Et ce qui est étonnant, c'est que vous ne vous connaissiez pas avant d'entrer dans ce studio.
Voilà, on compte toujours sur France Inter.
Voilà, pour créer des liens. Voilà. Rencontrer ses collègues.
Exactement.
Mais vous êtes aussi nombreux que ça dans ce laboratoire ?
Oh, une centaine.
Oui.
Le laboratoire s'est agrandi l'année dernière avec des refontes des universités et des laboratoires. Mm-hmm. Et on s'est croisés une ou deux fois depuis un an.
Bon, vous êtes cité dans le livre de Nicolas Gauvry quand même, vous avez cet honneur. Cognition humaine et artificielle, ça veut dire quoi Nicolas Gauvry? En gros, pour comprendre ce que vous faites et puis en lien avec ces enfants surdoués, tant qu'à faire.
Ça veut dire que c'est un laboratoire pluridisciplinaire où on étudie la cognition, c'est-à-dire par exemple le raisonnement, entre autres. Je parle de ça parce que moi c'est là-dessus que je travaille, il n'y a pas que ça. Donc depuis l'humain jusqu'à l'ordinateur, donc on essaye de voir comment l'ordinateur peut mimer les humains par exemple. Et donc dans ce laboratoire, y a de tout, il y a des mathématiciens, des informaticiens et des psychologues. Voilà,
donc Maud Besançon, mais vous avez aussi Maud une pratique clinique.
Clinique, voilà, le mercredi en libéral.
Ouais. Ça veut dire que vous rencontrez beaucoup d'enfants précoces?
J'en rencontre régulièrement, notamment pour des bilans et par la suite éventuellement des suivis si besoin est.
Nicolas Gauvry, vous êtes donc l'auteur de ce livre « Les surdoués ordinaires » aux presses universitaires de France. Comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à ces enfants dans votre pratique?
Alors, je les trouve fascinants, de toute façon, depuis très longtemps, évidemment, comme plein de gens. Et peut-être que ça arrivait pendant mes études de psychologie où j'ai fait un mémoire, il fallait choisir un thème pour un mémoire. Et me souvenant de tout ce qu'on raconte sur les enfants surdoués, j'ai eu l'idée de creuser un petit peu ce qu'on savait sur l'humour chez les enfants surdoués, parce que l'humour, c'est quelque chose qui s'étudie sérieusement. Et puis, en allant voir la littérature, c'est une espèce de curiosité intellectuelle que j'ai, je voulais savoir ce qui était vrai, ce qui était avéré, etc. Je me suis rendu compte que sur la question de l'humour et des surdoués, finalement, les données étaient à la fois très nombreuses dans la littérature scientifique et très souvent assez médiocres, notamment à cause du problème, peut-être qu'on en reparle tout à l'heure, du fameux problème de l'échantillonnage qui fait qu'on a tendance à étudier surtout des enfants surdoués qui se repèrent ou qui ont des problèmes. Et en l'occurrence, par exemple, juste pour fixer un peu les idées, par exemple, une méthode pour trouver des enfants surdoués, parce que pour les étudier, il faut les trouver d'abord, et ça ne se voit pas. Une méthode consiste à aller demander aux enseignants, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans votre classe qui aurait l'air d'un surdoué?
Qui aurait l'air d'un surdoué.
Et on va vérifier. Mais alors évidemment, si tout le monde pense que les surdoués ont de l'humour, on va comme ça nous désigner des enfants qui ont un humour particulier. Et donc peut-être que ce qui a été trouvé par cette méthode est en fait biaisé. Et finalement, je n'ai pas trouvé vraiment de réponse. Presque pas, un petit peu quand même.
Sur l'humour particulier du surdoué.
Sur l'humour, voilà.
Ouais. Mais c'est une porte d'entrée pour vous, en tout cas.
Voilà.
Pour
étudier. Et du coup, j'ai voulu creuser les autres idées qu'on avait sur les surdoués pour voir si ça s'applique à tous.
Oui. En ce qui vous concerne, Maud Besançon, dans le cadre de votre pratique de psychologue.
Alors, je suis venue plus tard sur le haut potentiel. J'ai commencé mon activité de psychologue auprès des sportifs de haut niveau. Alors, les sportifs de haut niveau, est-ce que c'est du haut potentiel? Et puis, j'ai fait une thèse qui s'intéressait justement à la créativité et plus particulièrement le haut potentiel créatif, et avec l'influence également des différentes formes de pédagogie. Et voilà, je me suis spécialisée par la suite également en libéral sur justement la détection des enfants précoces.
Et surtout les enfants que vous rencontrez, alors est-ce qu'il y a beaucoup de surdoués proportionnellement? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage déjà à votre échelle?
Alors oui, sur ceux que je rencontre qui viennent, oui, je dirais que oui, il y en a 70% qui, au final, sont au potentiel. Après,
mais parce qu'ils savent que vous intéressez à ce sujet-là. Voilà. Donc évidemment, ça biaise là aussi.
Ça biaise, mon échantillonnage, ça c'est certain. Et ce qui biaise également, c'est qu'on parle du haut potentiel. Ça ne veut pas dire que le QI total est supérieur à 130. Mais on a différents indices, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et il peut y avoir un haut potentiel sur certains indices et pas sur tous.
Nadine nous envoie ce message pour nous dire ceci. Je salue l'initiative de l'émission en espérant qu'elle mette en lumière la situation et la réalité de nombreux surdoués qui sont ordinaires et qui vont très bien. Cela contredira certainement les clichés faux qui voudraient que tous les surdoués vont mal, n'aiment pas le sport ou pensent différemment. Nicolas Gauvry, c'était un peu aussi l'objet du livre au fond.
C'était exactement ça, voilà. Le point de départ du livre, c'était ça. Je voulais savoir, en avoir le cœur net, parmi tout ce qu'on raconte, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et puis, il s'est avéré que certaines choses étaient effectivement bien étayées scientifiquement et d'autres pas. Et qu'en général, la vision qui ressort sans doute du livre et de la littérature scientifique est beaucoup plus optimiste.
C'est ça.
Que ce qu'on lit habituellement.
Voilà, parce que beaucoup d'idées reçues, vraiment, on parle d'enfants qui sont inadaptés, qui sont voire dépressifs, qui n'arrivent pas à être en relation avec d'autres enfants de leur âge et qui posent de véritables problèmes.
Voilà, et ça, c'est effectivement des cas qui se présentent. Et par exemple, puisque vous dites dépressif, il y a effectivement des enfants ou des adolescents dépressifs et certains parce qu'ils sont surdoués. Mm-hmm. Parce que quand on est surdoué, comme on n'est pas comme les autres, on peut éventuellement être rejeté, donc ça peut conduire à ça. Mais quand on regarde globalement, c'est ce que je voulais appeler les surdoués ordinaires, c'est oui. tous les surdoués, et ben globalement, ils ne sont pas plus dépressifs que les autres, ils ne sont pas plus stressés que les autres, et ils sont plutôt moins anxieux que les autres.
Oui. C'est une observation également que vous faites, Maud Besançon ?
Alors là, avec ma pratique clinique, je ne peux pas dire ça, étant donné que j'ai justement les enfants qui ont des difficultés scolaires. Et donc justement, moi, j'ai vraiment le biais de mon échantillonnage. Et ouais. En libéral, les enfants viennent, enfin les parents les amènent.
Parce qu'il y a des problèmes.
Parce qu'il y a des problèmes. Par contre, la dépression, pas nécessairement. Mm-hmm. Voilà, mais oui, il y a des problèmes au niveau scolaire, ouais. de la dépression.
Henri 37, c'est son nom sur Twitter, nous envoie ce petit message. Mon médecin pense ma fille surdouée, et alors, dit cet auditeur, la dépister pour quoi faire ensuite, pour payer une école privée hors de prix? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si justement on a le sentiment d'avoir un enfant un peu particulier, précoce, est-ce qu'il faut absolument le dépister?
Et que tout se passe bien, non. Pourquoi le dépister? Souvent, il y a un premier entretien voilà, pendant lequel je vérifie la demande, et quand les parents ne sont pas certains, quand moi, je considère que tout va bien pour l'enfant, je ne vois pas forcément l'intérêt de dépister un enfant. Le risque, c'est qu'une fois qu'on a donné le QI, oui. voilà, on a un chiffre, on a une étiquette, et après, ça colle à l'enfant. Et parfois, bah justement, les relations changent, la manière de fonctionner avec cet enfant va changer. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des difficultés qui apparaissent, alors qu'avant, il n'y en avait pas.
Oui. Donc, si l'enfant va bien, a priori, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin, selon vous. C'est vraiment en cas de problème.
Voilà, ou alors, pourquoi pas le faire, mais pas donner les chiffres. Et oui. comme ça, on ne change pas.
Nicolas Gauvry, justement, le QI, ça reste encore toujours le maître étalon dans la mesure de l'intelligence.
Alors voilà, là je ne vais pas être d'accord peut-être avec Maud, parce qu'on ne voit pas les choses exactement de la même manière, mais je pense que ça s'explique, on en a discuté. Brièvement, ça s'explique par l'entrée en fait dans la question. C'est-à-dire que moi j'ai eu une approche vraiment de curiosité intellectuelle, de scientifique qui voit ça de loin, si on veut. Et dans ce cas, moi ce qu'il me faut, c'est une définition claire, précise, pour pouvoir étudier les surdoués. Parce que si on me dit les surdoués, c'est des gens qui sont comme si, mais bon, on ne va pas se fixer un QI parce que sinon ça ne va pas, ça va être trop strict. On ne peut pas faire des études avec ça. Donc, dans la recherche, on est obligé d'avoir des critères vraiment précis. Oui. Et en général, le plus commun, c'est ça. On dit un enfant surdoué, c'est un enfant qui a un QI supérieur à 130.
Oui.
Et le QI, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, c'est une excellente mesure en psychométrie. Mais évidemment, on dit toujours, ça ne mesure pas ce qu'on voudrait parce que ce n'est pas l'intelligence, étant donné que chacun a sa propre définition
de l'intelligence. Oui, c'est déjà très compliqué à la base. Oui.
Voilà, on ne peut pas dire que c'est l'intelligence au sens usuel, puisque ça n'existe même pas, l'intelligence au sens usuel.
Alors, qu'est-ce que ça mesure exactement? Qu'est-ce qu'on arrive à avoir comme information?
Ce que ça mesure, c'est une forme, enfin c'est un indice, on appelle ça plutôt un indice, d'ailleurs on ne va même pas dire ça mesure directement, mais c'est un indice d'une forme d'intelligence logique abstraite, on pourrait dire. Voilà, donc ça laisse de côté tout ce qui est intelligence émotionnelle, en grande partie la créativité aussi.
Oui.
Voilà. Et donc, parce que j'avais cette approche-là de regarder vraiment d'un point de vue scientifique, j'avais besoin d'une définition claire et précise comme ça. Maintenant, je vais laisser Maud parler, mais évidemment, quand on a une autre approche et que l'intérêt qu'on a à étudier les enfants précoces, c'est les aider s'ils ont des problèmes, par exemple, ou alors les détecter, parce que peut-être qu'il y a des enfants à l'école qui pourraient faire de grandes choses et qui ne vont pas être poussés suffisamment pour les faire. Dans ce cas, c'est logique, évidemment, de s'intéresser aussi, par exemple, aux enfants particulièrement créatifs. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je parle de surdoués, de précoces, ou intellectuellement précoces, et que Maud parle plutôt de haut potentiel. C'est quelque chose de plus général, haut potentiel, en fait.
Ouais, y a toujours des avis divergents, quand même, sur le QI, hein, Maud Besançon.
Oui.
Sur son utilisation.
Oui, ça, il y a toujours. Il y a même eu, il y a quelques années, quelqu'un qui, voilà, des chercheurs qui disaient qu'il faut arrêter le QI et on arrête tout. Et c'est quand même utile. Ça donne des indications. En tant que praticienne, enfin clinicienne, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt de comprendre ce qui est sous-jacent dans chacun des indices, dans chacune des épreuves qu'on va faire passer à l'enfant, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, pas m'arrêter juste à la réponse. Le souci, là, c'est souvent qu'il y a un fonctionnement différent entre les enfants plus tout-venants et les enfants au potentiel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est leur réponse à des questions qui sont toutes simples. Justement, dans le livre, Nicolas parle du... Ah, c'est pas sur le feu. Enfin, il y a la fumée.
Oui, quand il y a de la fumée qui sort de chez le voisin.
Qui sort de la fumée de chez le voisin, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, traditionnellement, on va appeler les pompiers. J'appelle mes parents, je vais prévenir le voisin. Et là, c'est très drôle parce que dans le livre, c'est « Ah ben non, ça dépend du voisin oui. ». Et oui. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est plutôt sur les réponses que l'enfant va apporter, pas uniquement c'est juste ou c'est faux par rapport au format qui est attendu. Voilà.
Nanou nous dit ceci sur franceinter.fr, j'ai une fille précoce que j'ai fait tester très récemment, après de longs mois d'hésitation, résultat QI de 150. C'est beaucoup, hein ? Mais le chiffre ne veut rien dire, dit Nanou. Lors des résultats en présence de ma fille, la psychologue lui a expliqué son mode de fonctionnement, comment son cerveau réagissait, la pensée en arborescence. J'ai voulu filmer la réaction de ma fille. Enfin, on la comprenait. Enfin, elle comprenait qu'elle n'était pas anormale. Se sentir entourée et comprise est énorme pour elle.
Exactement.
Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage ?
Très bien.
C'est ce que
super.
Beaucoup de parents peuvent ressentir quand même malgré tout,
oui,
alors, à l'issue d'un test
quand,
comme celui-là.
Quand ça se passe de cette façon, quand le psychologue va expliquer, exposer les choses, donner le fonctionnement. Et effectivement, c'est important que l'enfant soit là lors de la restitution, ouais, parce qu'il se comprend également, il se comprend mieux et il se dit « Ok, c'est normal, voilà mm-hmm. comment je fonctionne ». Oui, c'est bien quand ça se passe comme ça.
Ouais. Nicolas Gauvry, justement, vous qui avez vraiment enquêté quasiment dans toutes les publications scientifiques qui existent, et il y en a énormément, hein, c'est un thème visiblement
oui,
qui intéresse beaucoup, beaucoup la science. Sur la question génétique, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer ? Est-ce qu'il y a une part héréditaire à la précocité, à l'intelligence donc, de ces enfants ?
Alors ça aussi, c'est un thème sulfureux, mais oui, qui fait vraiment consensus chez les scientifiques. C'est, depuis très longtemps, on est d'accord pour dire que l'intelligence au sens du QI, donc maintenant je vais préciser pour dire, l'intelligence au sens du QI est en partie héritable, mm-hmm. si on veut le dire comme ça. Quand on essaye d'estimer les variations, on dit 50%.
C'est donc c'est-à-dire qu'on peut le transmettre de génération en génération ?
C'est ça. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez été adopté tout petit, votre QI est plus proche, en moyenne, hein, c'est globalement, c'est statistique, mais ressemble plus au QI de vos parents biologiques qu'à celui de vos parents adoptifs.
Mmh.
Voilà. Et puis on peut vérifier ensuite si c'est vrai aussi, et ça a été fait pour les plus hauts QI, donc pour ce que les surdoués définis par un QI supérieur à 130, et c'est le cas aussi. C'est-à-dire qu'il y a une part héréditaire. Bon, c'est une part, hein, toujours. Il y a aussi des variations, évidemment, ouais, en dehors de ça. Et puis, puisqu'on parle de 50%, parce qu'on donne souvent des pourcentages comme ça,
ouais,
quand on parle des pourcentages de variation et qu'on dit 50% héréditaire, ça veut dire qu'on estime que parmi toutes les variations qu'il peut y avoir dans l'intelligence, il y a 50% qui s'explique par le fait qu'on n'a pas tous les mêmes formes de gènes, et 50% qui s'explique par le fait qu'on ne vit pas tous la même chose.
Mmh. Ben oui, c'est
mais,
ça quand même.
Mais quelque chose
ce
qu'on
qui influence oublie, énormément quand même un enfant. La façon dont il a été éduqué, par exemple.
C'est à peu près égalité.
Le milieu social.
Voilà. Ouais. C'est à peu près égalité, mais dans notre société. Donc c'est ça que je voulais préciser quand même. Dans une société où l'éducation serait plus inégalitaire, par exemple, mm-hmm. il y aurait mécaniquement plus de différences dues à l'éducation. Et donc, mécaniquement, la part génétique serait plus faible.
Ouais.
Voilà. Donc il ne faut pas prendre ce 50% comme une valeur fixe et universelle.
D'accord. Donc, mais prendre quand même tout ça avec beaucoup de précautions, évidemment, voilà, parce que c'est quand même très difficile de savoir la part exacte de génétique ou d'environnemental, d'éducation d'un enfant sur une précocité.
C'est fait avec des méthodes statistiques assez solides, mais ça dépend de la société, disons,
oui,
où on se trouve.
Lily nous dit ceci, selon plusieurs sources, ce serait une réalité physiologique qu'une certaine partie de la population aurait des neurones atypiques qui leur permettraient de penser différemment de la plupart des gens. S'il existe cette réalité physiologique à la surdouance, aurons-nous, éthiquement parlant, le droit de l'inclure dans le fonctionnement de notre société ? Alors, il y a deux questions à la fois. D'abord, qu'est-ce qu'on sait, évidemment, du cerveau et des neurones de ces enfants ? Et puis après, qu'est-ce que ça peut poser, effectivement, en termes éthiques ?
Moi, je n'ai rien vu sur les neurones. Je n'ai pas vu d'études sur les cellules, hein, les cellules nerveuses. Mais quand on regarde le fonctionnement
sur
global
le cerveau.
Du cerveau,
ouais,
là, oui, il y a des études qui montrent des différences. Alors, mais en fait, ces différences sont assez prévisibles. C'est-à-dire, les mêmes zones du cerveau ne sont pas forcément activées pour les mêmes problèmes chez les enfants ordinaires et chez les enfants surdoués. Mais ça s'explique par le fait que les enfants surdoués arrivent à automatiser des tâches. C'est-à-dire que des problèmes qui vont paraître très compliqués à des enfants ordinaires et qui vont devoir donc se concentrer pour les faire,
mmh.
vont paraître au contraire très simples à des enfants surdoués qui, eux, vont les automatiser. C'est-à-dire qu'ils pourront les faire sans vraiment réfléchir. Et du coup, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Il y a quelques études qui montrent ça. Il y a aussi des différences dans la vitesse de développement du cerveau entre les enfants surdoués et les enfants ordinaires.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe alors ?
En fait, dans l'enfance, le cortex, donc la partie supérieure du cerveau, a tendance à s'affiner. Et elle s'affine moins, donc elle se réduit moins chez les enfants surdoués que chez les autres. Voilà, ce qui a été trouvé. Mais tout ça, là, il faut
mais ça veut dire quoi,
éviter
alors, concrètement ?
de... En fait, c'est une réorganisation qui se passe et il y a beaucoup de neurones qui disparaissent, de connexions surtout qui disparaissent. Mm-hmm. Et apparemment, il y a moins de connexions donc, qui doivent disparaître chez les enfants surdoués. Mais ça ne veut absolument pas dire que la douance est une conséquence de quelque chose de biologique. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Hein, quand, si on a une zone de la musique particulièrement développée, ce n'est pas nécessairement ça qui va faire qu'on va devenir musicien. Ça peut être aussi l'inverse. Si vous apprenez le violon, vous aurez la zone concernée qui va se développer. Donc, qui est comme ça une corrélation entre des choses psychologiques et des choses biologiques, c'est normal, en fait. Et ça prouve absolument rien. Ça ne dit pas que c'est fixe, ça ne dit pas que c'est d'origine biologique. Ça montre simplement qu'on peut voir sur le cerveau ce qu'on voit aussi autrement.
Beaucoup d'idées reçues sur les enfants surdoués. On va les aborder dans la seconde partie de ce dossier avec vous dans un instant. Et beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr et sur le hashtag l'attaque. Can Do Without You avec Caribou sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Les enfants surdoués précoces, c'est le thème de l'émission. Nicolas Gauvry publie un livre, Les surdoués ordinaires, aux presses universitaires de France. Et à vos côtés, donc, nous sommes avec la psychologue Maude Besançon. Vous faites partie du même laboratoire Charte, donc cognition humaine et artificielle. Beaucoup de messages, ça ne nous surprend pas d'ailleurs, parce qu'il y a toujours énormément de questions et de témoignages sur ce sujet. Geoffroy nous envoie ce mail. Merci pour votre livre, car c'est très juste. Les enfants surdoués sont souvent ordinaires et vont très bien sans être des génies. J'ai deux enfants avec plus 150 de QI, dit Geoffroy. Les plus grandes difficultés sont les relations avec les enseignants. C'est absolument horrible, écrit-il. Autre chose, comment remédier à leur grande paresse? Ma fille Justine souffre car elle n'a jamais appris à travailler. La première partie peut-être de la question, Nicolas Gauvry, sur le rapport avec les enseignants. Toute la difficulté peut-être, c'est la formation des enseignants face à ces enfants.
Ah, alors là, si on parle de ça, ça risque de durer plus longtemps que prévu. Mais oui, on critique beaucoup la formation des enseignants parce qu'il n'y a quasiment pas de psychologie. Ils ne sont pas formés à ça. Mais ça, c'est un problème difficile à résoudre étant donné le nombre de matières qu'ont déjà les pauvres étudiants à étudier là, pour devenir enseignants. Donc ça, malheureusement, je crois que ça va perdurer un petit peu. Non, plutôt, là, j'aurais juste une anecdote à raconter, parce que j'ai fait un bref séjour en psychologie scolaire, et j'ai rencontré un cas qui, apparemment, arrive assez souvent, de réaction d'enseignants, justement. On était venus, donc, avec le psychologue scolaire concerné. On était venus, non pas pour détecter un enfant surdoué, mais pour remédier à un problème, comme d'habitude, évidemment. C'est un enfant qui pose un problème, qui empêchait les autres de travailler, qui était insolent, etc. Et puis quand on a discuté un peu avec lui, on l'a testé, on s'est aperçu qu'il était très en avance, il avait presque 2 ans d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu sauter 2 classes, il se serait retrouvé, du moins du point de vue des compétences et des connaissances scolaires, dans la moyenne à peu près. Voilà. Et on a eu un mal fou à convaincre la professeure que c'était ça le problème, et qu'il fallait peut-être lui faire sauter une classe et qu'il s'ennuierait moins, et que du coup, peut-être, il serait moins embêtant. Et j'ai vraiment senti que pour elle, faire ça, ça aurait été récompenser un comportement qu'il fallait punir. Et ça, c'est malheureusement un comportement qu'on entend. Voilà, il y a des témoignages qui viennent de partout, de gens qui ont vécu ça. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi des enseignants qui se sont formés, qui sont parfois autodidactes sur la question et qui réagissent très, très bien. Mais je pense que Maud sera plus à même. Oui.
Qu'est-ce qui ressort d'ailleurs de votre pratique et puis de ces enfants que vous rencontrez? La question de l'école, elle est cruciale.
La question de l'école est cruciale, et j'ai vraiment de tout. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des enseignants qui sont très à l'écoute, et quand je parle de l'enfant, vont vraiment mettre en place les choses et tout va très bien se passer. Et à l'inverse, on a ceux qui n'entendent pas, qui ne veulent pas entendre, qui ne comprennent pas, qui effectivement l'enfant... Alors parfois même, effectivement, il a plus de lenteur au niveau de l'écriture. Moi, je parle en élémentaire quand en CP, en CE1, parce qu'il cherche la perfection. Et donc, il est tellement lent, il y en a d'autres qui ont terminé avant. Oui, il n'est pas assez sûr de lui. Oui, mais à un moment donné, ses connaissances qu'il a par ailleurs, que ce soit au niveau de la compréhension verbale, du raisonnement, il peut avoir 2, 3, voire 4 ans d'avance. Et voilà. Et donc, l'important, c'est de pouvoir donner à cet enfant, parce qu'il prend aussi son temps, parce que de toute façon, après, il s'ennuie. Donc, au moins, il s'occupe. Donc, c'est de pouvoir lui donner d'autres choses à faire, par ailleurs. Et il y a beaucoup d'enseignants qui, de plus en plus, le font, c'est-à-dire autorisent des lectures, autorisent à faire des projets, autorisent à faire des interventions après à présenter à l'ensemble de la classe. Et ça, c'est super. Et il y a quand même de plus en plus de formations a posteriori, une fois que les enseignants sont dans l'école, qui sont proposés dans la formation continue. Après, tous les enseignants ne la font pas, évidemment, mais il serait bien de l'imposer un peu plus.
Quand Geoffroy nous dit dans son message que sa fille souffre parce qu'elle n'a jamais appris à travailler, là aussi, c'est quelque chose que vous observez?
Oui, c'est... Alors, je ne sais pas quel âge a sa fille. Je dirais que jusqu'en primaire, ça ne pose pas de problème. C'est bien parce que ça va vite, on n'a pas de devoirs à faire. Souvent, ils ont écouté la leçon et ils arrivent le soir, ils n'ont même pas de devoirs parce qu'ils connaissent déjà la leçon. C'est quand arrive le collège où là, au bout d'un moment, il y a beaucoup plus de travail à effectuer. Et évidemment, ils n'ont pas appris à faire d'efforts puisque tout était simple auparavant. Et c'est important de leur apprendre justement l'effort et assez rapidement. C'est pour ça que ce n'est pas intéressant de les laisser dans l'ennui, mais de leur apprendre à faire des efforts. Et puis que l'erreur, dans l'erreur également, on apprend, parce que c'est des enfants qui, parfois, ont vraiment du mal à faire des erreurs.
Emmanuel demande jusqu'à combien peut s'élever un QI chez un être humain? Parce qu'on parlait de 150 chez ses enfants. Alors l'échelle, elle va jusqu'où après?
160.
160
Oui.
Donc 150, on est déjà très très haut quand même.
Oui, très très haut.
Et il y a, à l'inverse, une échelle basse ou pas?
Oui, une échelle basse, puisque la moyenne est à 100. Donc l'échelle basse est à peu près 40.
40.
Oui, entre 40 et 160.
Et on donne un nom à ces enfants qui ont 40 ou pas?
Oui, alors on va parler de retard intellectuel avéré, très profond, enfin, voilà.
Donc l'échelle entre 40 et 160.
Avec une moyenne à 100.
Nicolas Gauvry, la personnalité, est-ce que ça se mesure scientifiquement aussi? Là, pour parler encore des idées reçues liées à ces enfants surdoués, c'est assez documenté quand même, il y a beaucoup de choses sur la question.
Ah oui, il y a eu énormément d'études, alors indépendamment des enfants surdoués, sur la bonne manière de mesurer la personnalité. Et puis maintenant, il y a un consensus qui se dégage quand même sur le fait qu'on peut mesurer, disons, assez bien la personnalité de quelqu'un avec 5 grands traits, et plus précisément avec une trentaine de traits plus précis. Voilà, il y a encore des discussions parmi les scientifiques, ils ne sont pas tous d'accord, mais enfin, en gros, voilà, c'est ce modèle-là avec 5 grands traits et 30 petits qui semble émerger. Donc moi, j'ai regardé ce qui, dans la littérature portant cette fois-ci sur les surdoués, abordait cette question de savoir si les surdoués sont différents ou pas du point de vue de la personnalité, parce que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Et je n'ai pas trouvé grand-chose de très convaincant, honnêtement.
Bah c'est dommage.
Alors, il y a quelques différences qui semblent quand même revenir. Par exemple, l'ouverture. Voilà. L'ouverture à la nouveauté, l'envie de connaître, l'envie de découvrir
très
des choses.
Très marqué chez ses enfants.
Qui est plus marqué
plus
chez
marqué,
les enfants
très
surdoués.
Marqué.
Voilà. Mais surtout, il y a d'autres petites différences que j'ai détaillées un peu dans le livre, mais surtout, ce qui ressort, c'est que par rapport à l'image d'Épinal, on va dire, des surdoués, ils ne sont quand même pas si différents que ça, du point de vue de la personnalité. Et surtout, ce qui ressort, c'est qu'ils sont assez similaires. Même si, sur certains traits, il y a quand même des petites différences, comme notamment l'ouverture. Et un autre, par exemple, qui ne surprendra pas, peut-être, c'est sur le fait d'être consciencieux. Ils sont plutôt moins consciencieux que les autres. Voilà. Donc peut-être paresseux, je ne sais pas, ça peut s'appeler comme ça. Mais voilà.
Maud Besançon, là aussi, il faut prendre beaucoup de précautions sur l'interprétation de ces études et sur la façon, sur la méthode dont ces études scientifiques sont réalisées.
Bah oui, toujours, parce qu'on arrive toujours, on en a déjà parlé tout à l'heure.
Sur
mais
le problème de l'échantillonnage.
L'échantillonnage pose toujours question. Effectivement, alors moi, je retrouve dans l'aspect ouverture cet intérêt après moi pour la créativité où l'ouverture est très importante et où on voit qu'il y a quand même une corrélation entre l'intelligence et la créativité, même si à partir d'un seuil d'environ 120, il n'y a plus forcément de lien. Mais il faut un minimum d'intelligence pour être créatif. Donc effectivement, une ouverture nécessaire pour aller explorer ce qui est autour de nous.
Oui. Il y a ce message de Marie, qui est psychologue scolaire. Elle fait un constat, je rencontre de plus en plus d'enfants aux compétences supérieures à la normale. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Est-ce que vous l'observez également, Maud Besançon?
Alors là encore, je pense que mon échantillonnage est faussé, puisque comme je suis spécialisée sur le haut potentiel, oui, je vois majoritairement des enfants à haut potentiel.
Mais vous lisez quand même ce qui se passe autour de vous.
Oui,
donc,
après, il n'empêche, quand, enfin, voilà, la maison d'édition qui crée le test vraiment, le WISC, ils ont fait un échantillonnage sur un ensemble d'enfants et le QI moyen, il est à 100. Mm-hmm. Effectivement, après, ça se répartit de manière...
Il a juste la possibilité, si on utilise des outils anciens, on peut souffrir de l'effet Flynn. Qui est que
c'est quoi l'effet Flynn?
L'effet Flynn, c'est l'augmentation du QI. On dit ça comme ça. En fait, le QI n'augmente pas, puisqu'on disait que c'est toujours 100 la moyenne. Mais si on utilise toujours les anciens tests et qu'on mesure comme on faisait avant, le QI a eu tendance, en tout cas pendant plusieurs décennies, à augmenter de manière régulière. Et du coup, ça pourrait expliquer ça. Et quand on est psychologue scolaire, souvent, on a des vieux outils.
Voilà. Donc, on observerait un bond extraordinaire des capacités des enfants par rapport aux tests. Donc, pas vraiment de réponse non plus à cette question sur le fait qu'il y aurait plus d'enfants aux capacités étonnantes aujourd'hui.
J'ai pas de meilleure réponse.
Vous restez très précautionneux, apparemment. Une enseignante Françoise nous dit ceci: je pense que l'école a sa part de responsabilité. On peut diminuer les problèmes par un saut de classe en primaire et augmenter les difficultés en refusant un saut de classe, entraînant un manque de confiance en soi et un déficit de concentration. Ça rejoint, on est d'accord, ce que vous disiez tout à l'heure. Pascal nous dit ceci: nous avons 4 enfants, les 3 aînés ont été diagnostiqués surdoués, pas besoin pour la 4e, nous connaissons les signes. Humour, sens aigu de la précision, horaire, couleur, distance, durée, et des sentiments mal-être scolaire, proche de l'échec. Et puis du coup, nous sommes également questionnés, leur mère et moi, est-ce que nous sommes également diagnostiqués? Est-ce qu'on pourrait être diagnostiqué sur deux? Il faudrait qu'ils passent un test,
Maud
Besançon.
Ils peuvent passer
un test. Tout le monde peut passer un test de QI comme
tout
ça,
à fait.
C'est vrai?
Alors après, on a différents tests, mais à partir des enfants de 2 ans et demi, jusqu'à 6 ans, on a un test. Puis après, de 6 à 16 ans, quasiment 17 ans. Ouais. Et après, au-delà de 16 ans, un autre test.
Il faut combien de temps, à peu près, pour faire ce test
de
QI?
Pour les enfants, 1h30. 1 heure pour les plus jeunes, 1h30 pour les plus grands. Mm-hmm. Et les adultes, 2 heures.
Bon, et donc c'est une batterie de questions qu'on pose aux personnes rencontrées. Et tout ça a un coût, évidemment.
Oui, on est d'accord.
Ça coûte combien, un test de QI, à peu près?
Je ne peux pas vous répondre, parce que tout le monde propose des prix différents. Je pense au moins 250-300 euros.
3 chiffres.
Oui, quand même.
Facilement.
Agnès nous dit ceci dans son message sur franceinter.fr: nous sommes parents de 2 enfants reconnus précoces. Ce que nous avons constaté pour nos enfants parfaitement intégrés tant au niveau scolaire que social, ce sont 2 principales caractéristiques: une grande sensibilité, parfois cachée, et un mode de pensée très accidenté. À 9 ans, ma fille désespérait d'avoir une pensée en forme d'arbre, alors que ses camarades avaient une pensée linéaire. Ils font preuve, dit Agnès, par ailleurs, d'un recul étonnant sur leur relation aux autres et leur environnement, et ont beaucoup de second degré. Nicolas Gauvry, vous reconnaissez à peu près...
Oui, ça fait partie des petites différences qui sont vérifiées, on va dire. Mm-hmm. Mais encore une fois, sur un cas particulier, ça peut paraître flagrant. Et quand on regarde au niveau de la population, en fait, les différences sont quand même assez faibles.
Oui. La pensée accidentée, ça veut dire quoi,
c'est la pensée, Besançon, exactement. J'imagine que c'est la pensée en arborescence. Hein, donc, qu'on nomme, nous, quand on étudie la créativité, la pensée divergente. Mm-hmm. Le fait, à partir d'une idée, d'avoir de nombreuses idées qui partent un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc quand on a cette sorte d'idée, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des mind maps, des cartes heuristiques, puisqu'effectivement, après, on peut essayer de retrouver des liens entre ces différentes idées pour arriver à quelque chose d'un peu plus linéaire, retrouver des liens entre...
Oui, voilà, la pensée en arborescence, j'en ai beaucoup entendu parler, donc c'est bien que Maud confirme ce que je pensais, que c'est la même chose que la pensée divergente. Et quelque chose qui ressort assez souvent dans les témoignages, c'est, ou dans les idées que les gens se font sur les surdoués, c'est que les enfants ordinaires ont une pensée linéaire, les enfants surdoués ont une pensée arborescente. Et c'est pas ça, en fait. On est plus ou moins doués pour avoir une pensée divergente, et les surdoués sont plus doués, et évidemment les hauts potentiels créatifs encore plus particulièrement, doués pour avoir ces pensées divergentes, mais c'est pas un mode de fonctionnement complètement différent, c'est simplement qualitativement c'est pas différent, quantitativement c'est différent.
Allez, on termine rapidement avec ces dernières questions. Marie nous dit ceci: la majorité de ces enfants présentent des troubles graphiques et ou praxiques, pouvez-vous apporter quelques éclairages à ce sujet?
C'est pas une majorité du tout, hein. C'est une minorité, mais ça a beaucoup fait réfléchir les scientifiques, parce qu'il semble que les enfants surdoués soient un peu plus que les autres, souffrent un peu plus que les autres de ces problèmes de dyslexie, dyspraxie, dysgraphie. Et c'est assez étonnant, on s'attendrait à ce qu'au contraire, ils réussissent beaucoup mieux. Voilà, mais ce n'est pas du tout une majorité, c'est une minorité un peu plus importante que chez les autres.
Besançon, pareil,
oui, je suis assez d'accord.
Par rapport à votre pratique clinique.
Plutôt une minorité. Souvent, c'est plus difficile à mettre en évidence, parfois, puisqu'ils vont réussir, avec leurs compétences supérieures, à cacher, justement, c'est souvent la dyslexie. Au niveau de la... Voilà, après, non, pour moi, il n'y a pas plus de dyslexie, dyscalculie, dyspraxie que dans la population.
Et puis enfin, Jean-Paul, comme Patrice sur Twitter, se demande ce que deviennent les surdoués dans la vie courante et, évidemment, une fois à l'âge adulte. Alors, quelle est la réponse à cette question?
Tout dépend des personnes. En tout cas, ils continuent à fonctionner comme ils fonctionnaient petits.
Est-ce qu'un enfant surdoué devient forcément un adulte surdoué?
Presque toujours, on va dire.
Voilà.
Voilà, devient presque toujours un adulte surdoué. Mmh. Et en général, ils finissent plutôt mieux. Quand je disais que ce qui ressortait de ce que j'avais lu était beaucoup plus optimiste que ce qu'on lit habituellement, c'est à la fois par description des enfants et puis aussi sur ce qu'ils deviennent. En général, ça tourne bien. C'est-à-dire même si ça se passe mal quand ils sont enfants, souvent ça finit bien, l'histoire.
Donc c'est une façon aussi de rassurer tous ceux qui s'inquiètent et d'aller contre ces idées qui sont très répandues sur le fait que ces enfants tournent mal aussi. C'est ce qu'on dit souvent à leur sujet. Laurie, pour terminer, mon fils a été diagnostiqué hyperactif. Parfois, je me demande s'il n'est pas surdoué par certains points. Surdoué et hyperactif ont-ils les mêmes symptômes?
Alors, ils n'ont pas toujours les mêmes symptômes. Effectivement, on peut en retrouver justement face à l'ennui. Face à l'ennui à l'école où l'enfant va bouger, va manquer d'attention. Mais c'est parce qu'il a compris et qu'il ne comprend pas que l'enseignant il répète trois fois la même chose alors que lui, il a compris du premier coup. Donc voilà, donc il va paraître... inattentif, mais il n'est pas forcément effectivement TDAH, donc il faut vraiment faire attention à ne pas les confondre tous les deux.
Merci beaucoup en tout cas Maud Besançon et Nicolas Gauvry, donc de ce laboratoire Chartres Cognition Humaine et Artificielle, et puis donc je signale ce livre qui vient de paraître aux Presses Universitaires de France, pour faire le point sur l'abondante littérature scientifique, Les Surdoués Ordinaires au PUF, donc ça vient de sortir. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Dans un instant, nos auditeurs surdoués avec le quiz de La Tête au Carré.
On ne se méfie jamais assez. Les alarmes, les sirènes de pompiers. L'amour a-t-on fait de les faire taire? L'amour fait tomber toutes les barrières. Hey, hey, je suis tout à toi, j'ai dit.
si c'est pour se méfier. On se sent les instincts généreux. On donne sans compter, c'est tant mieux.
Premier extrait de son nouvel album qui sortira le 3 novembre prochain. On ne se méfie jamais, la voix de Julien Clerc que vous aviez reconnue. Dans quelques jours, nous allons diffuser les premiers messages que vous nous envoyez en ce moment sur le répondeur de la Tête au Carré. Je vous rappelle que depuis la semaine dernière, vous pouvez composer le 01 56 40 69 47 et déposer vos remarques, vos suggestions, vos rendez-vous, vos coups de gueule scientifiques. Vous pouvez donc nous suggérer des sujets d'émission, revenir sur un dossier qui vous a fait réagir ou nous indiquer des événements scientifiques près de chez vous. Le répondeur fonctionne 24 heures sur 24. On vous attend donc au 01 56 40 69 47. Et c'est le moment, comme tous les jours en fin d'émission, de passer nos auditeurs à la question. Florence Porcel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
De nouveaux courageux auditeurs sont avec nous aujourd'hui. Il s'agit de David et Laurence. Bonjour.
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 David,
bonjour.
Vous êtes à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine.
Tout à fait.
Vous êtes chercheur en sociologie. Et vous cherchez quoi exactement?
Déjà, j'essaie de trouver une université qui voudrait de moi, parce que j'ai fini ma thèse il n'y a pas très longtemps. Mais donc je travaille sur les fans de séries télé, de jeux vidéo, etc.
Ah tiens.
Les fans de médias. Sur les geeks.
Et Laurence, vous êtes-vous à Villemur-sur-Tarn? Ça, c'est en Haute-Garonne.
Villemur-sur-Tarn, oui.
Qu'est-ce que vous faites, Laurence, dans la vie?
Je suis, pour l'instant, maman au foyer, mais en recherche d'emploi aussi.
Mmh. Dans quel domaine?
Voilà, dans l'assistanat.
Bon, bah écoutez, l'appel est lancé. Florence, cette semaine, voilà. C'est Arte Édition qui est partenaire de notre jeu.
Oui, et on joue pour vous offrir des DVD, La Valse des Continents 2 et Le Grand Inventeur. Et c'est évidemment celui ou celle d'entre vous qui aura accumulé le plus de points qui remportera ces deux DVD.
Alors David et Laurence, on va commencer bien sûr par la question d'actualité. Vous allez entendre un extrait sonore. Et à l'issue de cet extrait, évidemment, je vous poserai une question, vous vous doutez bien. Voici donc cet extrait, écoutons-le attentivement ensemble.
Un des éléments caractéristiques principaux, c'est sa capacité de création. Et le deuxième élément, c'est sa capacité à montrer dans le réel que ses idées sont les bonnes.
On vient d'entendre le neurocancérologue François Berger qui parle d'un homme qui s'appelle Alim Louis Benabid. C'est un neurochirurgien français qui vient tout juste d'être distingué par la fondation Lasker, considérée comme l'équivalent américain du prix Nobel. Voici la question que je vous pose. Sur quelle maladie portent les travaux récompensés? Vous avez 30 secondes. Nous sommes donc dans le domaine des neurosciences.
La maladie d'Alzheimer?
Non,
mais on n'est pas loin. On est dans une maladie neurodégénérative.
C'est David qui l'a dit en premier.
Ouais, mais j'ai entendu David nous citer Parkinson le premier, effectivement.
Ah, oui, voilà. Non. Et le professeur Benabid donc, a remporté le prix de la recherche médicale avec son homologue américain Malone DeLong, qui récompense leur technique de stimulation cérébrale profonde. Alors, ça consiste à implanter des électrodes pour stimuler un noyau profond du cortex cérébral pour réduire les troubles moteurs d'un patient atteint de Parkinson. Mm-hmm. Voilà, félicitations à David qui a 10 points du coup.
Les Merci. Questions de rapidité. David et Laurence. Et Laurence, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous allez largement vous rattraper dans quelques instants. Le principe est simple. 7 questions avec un ordre croissant de difficulté.
Oui, et je rappelle que si une question pose problème, vous pouvez passer à la suivante et y revenir après. Donc n'hésitez pas à le dire.
David et Laurence, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Oui. Première de ces 7 questions. Sur quelle planète, je dis bien planète, l'homme a-t-il déjà posé le pied ? Hormis la Terre, évidemment.
Aucune.
La Lune.
Aucune, David, bravo. Oui. Quelle molécule de plus en plus présente dans l'atmosphère ? Quelle molécule donc de plus en plus présente dans l'atmosphère provoque en partie le réchauffement climatique actuel ?
Le
dioxyde de carbone, bonne réponse, David. Quel célèbre cri que la légende attribue à Archimède, signifie « j'ai trouvé » en grec ancien.
Eureka.
Eureka pour Laurence. Dans le film Jurassic Park, de quel animal utilise-t-on l'ADN pour combler le code génétique incomplet des dinosaures ?
Une grenouille.
Oh là, c'était sur le fil. Qui a répondu le premier ?
Je mets les points aux deux.
Allez, ex aequo. Comment s'appelle la technique de manipulation de la lumière destinée à créer des images en 3D ?
L'hologramme.
Presque.
L'holographie.
Ouais. Allez, on va le donner aux deux également. Comment s'appelle la suite de nombres ? Comment s'appelle la suite de nombres dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent ?
Fibonacci.
La suite de Fibonacci. Bravo David. Dernière question. En ingénierie, quel ouvrage français a reçu la médaille Gustave Lidenthal en 2005 ? Ouvrage situé dans une vallée française, magnifique.
Récent.
Récent.
Je ne sais pas du tout.
Vous avez peut-être emprunté cet ouvrage en voiture.
Non, je ne sais pas.
Il s'agit d'un viaduc.
Le viaduc du Millau.
Eh oui, mais c'était à l'issue de notre chrono. Eh oui, c'était le viaduc de Millau. Ce pont à Auban qui franchit la vallée du Tarn, le département de l'Aveyron. Alors là, il faut faire les comptes parce qu'il y a eu beaucoup de questions ex aequo.
Oui, du coup, alors si je calcule bien pour cette manche, donc on a 15 points pour Laurence et 25 pour David.
Voilà donc le score. Une petite avance donc pour David.
Oui.
Le mot mystère pour terminer. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre.
Oui.
On vous a donné tout à l'heure au téléphone, juste avant de prendre l'antenne, donc un mot à faire deviner à votre adversaire.
Et ensuite, vous échangerez les rôles, bien entendu. On commence par David.
David, ça vous va ?
D'accord, donc je fais deviner, c'est ça ?
Voilà, oui. Vous avez 45 secondes donc pour proposer et faire deviner votre mot à Laurence. C'est parti.
Alors, c'est une opération de chirurgie qui consiste à enlever un bout de cerveau pour soigner des maladies, surtout psychologiques. Voilà, qu'on fait ça dans les asiles très longtemps.
Trépanation.
Presque. C'est proche de ça.
Ouais, on est pas loin.
Ablation.
Non.
Non, on l'utilise
ablation
aussi pour
du lobe.
Alors vous avez un élément
vous avez
dans
un
ce
élément
que vous venez de dire.
Ablation du lobe.
Vous avez dit le lobe et c'est intéressant, Laurent.
Vous êtes sur la bonne piste.
Ça commence pareil.
Ah, une lobotomie.
C'était sur le film.
Non.
Si, c'est une lobotomie, Laurence.
C'est ça.
Je ne sais pas ce que j'ai envie d'aider les candidats depuis quelques jours.
Oui, c'est ça.
Et je vois que ça fonctionne plutôt bien.
Bah hein. Oui, écoutez, puisque Laurence a trouvé, bravo, ça vous fait 10 points.
Voilà, 10 points grâce donc à cette définition. Laurence, c'est à vous maintenant. Vous avez 45 secondes.
C'est à moi. Donc,
c'est parti.
Alors, oui. Donc, c'est un petit corps céleste qui gravite autour d'une masse beaucoup plus importante.
Satellite.
Oh là.
Oui.
David, on vous la fait pas, vous, hein.
Non.
Rapide.
C'était pas trop.
Des
compliqué.
Bonnes réponses. Voilà.
Efficace.
C'était une très bonne définition.
Merci
oui,
beaucoup,
aussi,
Laurence, de l'avoir
posé. Bravo.
Et d'avoir donc offert sur un plateau ces quelques points à David.
Bah, 10 points aussi pour David. Et du coup, eh bien, c'est David qui remporte ce jeu avec 45 points contre 25. Voilà.
Bravo.
Ouais.
Bravo, David. Bon, c'est mérité, David. Bon, hein, vous avez été très, très rapide. Qu'est-ce qu'on vous offre, David
oui. Du coup, vous repartez avec deux DVD de chez Arte Éditions. Alors, un qui vous fera découvrir les coulisses du Muséum d'Histoire Naturelle et l'autre l'autre, plus de la géologie, qui vous racontera l'histoire des continents africains et américains.
Avec de superbes images.
Avec de très belles images, oui.
Absolument.
Un beau cadeau.
Voilà. Laurence, merci en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous allez trouver un emploi donc, dans le Tarn-et-Garonne comme assistante de direction.
Mais avec plaisir.
Et puis merci, merci beaucoup de nous écouter. Et pour les candidats qui souhaitent faire comme vous, bah, il suffit de s'inscrire.
De s'inscrire sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Voilà.
Bonne journée à tous les deux.
Après-midi.
Bonne journée.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Fabrice Drouel nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Affaires sensibles, c'est dans quelques minutes après les infos à 15h de quoi on parle aujourd'hui Fabrice.
De l'incendie du cinéma Saint-Michel à Paris le 28 septembre 1988 au motif qu'il programmait le film de Martin Scorsese, La Tentation du Christ, une action des intégristes catholiques français. Le récit comme d'habitude est notre invité François-Guillaume Laurin, écrivain, journaliste, critique, cinéma au journal Le Point.
A tout à l'heure Fabrice, merci.